Comme vous vous doutez, après les événements de ces quelques jours, dans un sens, je ne pouvais pas m'empêcher de centrer, axer le message autour un peu de ces événements et surtout en tant que chrétien, notre réponse, parce que nous voyons la réponse des hommes. Vous avez certainement entendu les déclarations du président français suite à ces attentats. Ce que les hommes ont dit, ce que d'autres ont dit dans les médias, peut-être dans votre entourage, et des sentiments qui nous viennent à l'esprit, la réaction, on va dire, qui sur le champ vient en nous, c'est peut-être la peur. Imaginez-vous vendredi soir ceux qui ont été pris dans ces attentats à Paris, et la peur, la colère, je crois, réaction qui était là, la colère, comment a-t-on pu oser se prendre à la capitale française? Oui, l'incertitude, le doute, peut-être sentiment de haine, de représailles, toutes ces émotions, toutes ces réactions qui surgissent dans l'esprit, dans le cœur. Et en tant que chrétien, nous avons peut-être ressenti ces mêmes choses. C'est vrai, la France étant mon pays adoptif, je ressens quelque chose. Pour ceux qui sont, on va dire, français de nationalité, encore plus sûrement. En même temps, nous sommes, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, chrétiens. Et notre réaction face à quelque chose comme cela. Et le monde aura sa réaction, les inconvertis pourront avoir leur réaction, mais ce matin, j'aimerais, à travers trois passages que nous allons voir pendant ces quelques instants, j'aimerais qu'on réfléchisse à une réaction et une réponse chrétienne radicale. Alors, j'ai choisi ce mot de manière intentionnée parce que c'est vrai, on entend parler des fanatiques de quelque religion que ce soit, on entend parler des gens radicaux. Et en tant que chrétien, je suis convaincu que lorsqu'on regarde la parole, notre réaction devrait être tellement différente qu'elle semble radicale, non pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où on s'attache à la Bible et comment Dieu voudrait qu'on réagisse face à ces événements. Et ça peut sembler radical de l'extérieur, mais on va voir que Dieu nous appelle à quelque chose quand même, moi je vais le dire, surnaturel, parce que cela ne vient pas de nous, comme on va le voir. Alors, premier passage que j'aimerais regarder ce matin, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, et à partir de verset 43. Ce passage avec les chapitres qui suivent est connu sous le titre global Le Sermon sur la montagne. Jésus parle du royaume des cieux. Et au chapitre 5, il va expliquer quelque chose à ses auditeurs qui est tout à fait à propos pour nous aujourd'hui, 21e siècle en Europe. Matthieu chapitre 5, verset 43, suivez avec moi alors que je lis jusqu'à la fin du chapitre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus, dans ces versets, parlait essentiellement à des juifs et il leur explique, il y a les gens qui font du mal, il y a les gens qui, oui, persécutent et en même temps il prédisait ce qui allait arriver aux chrétiens du premier siècle et de tous les siècles. Il y a des gens qui, oui, haïssent, qui maltraitent, qui maudissent, qui persécutent. Et Jésus ici annonce une réaction qui est totalement contraire au raisonnement humain. Lorsque quelqu'un s'en prend à nous, quelle est notre première réaction? Ben, c'est de remonter les manches et ben, se défendre, s'en prendre à l'autre personne, rendre l'appareil. Et chose totalement étonnante, incroyable, impensable même, pour l'homme, Jésus dit non. Si on veut le suivre, si on suit ce que lui, il est en train de dire et d'annoncer, si on veut ressembler à Jésus-Christ, si on veut avoir cette réponse, comme je l'ai dit, chrétienne, radicale, ça passe par ce que Jésus dit ici. Il dit « Priez pour ceux qui vous font du mal. Bénir. Et aussi faire du bien. » Et on se dit « Mais cela est impossible. Non, c'est pas ce qu'il faut. J'en suis incapable. » Et verset 48, Jésus souligne cela. Soyez parfaits. Qu'il est. Personne. Souvent, on emploie ce verset. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On l'emploie dans le témoignage, dans l'annonce du salut, pour montrer aux gens, bah, ils ne sont pas parfaits. Ils ont besoin d'un sauveur. Mais en même temps, en tant que chrétiens, reconnaissons que, bien que nous sommes sauvés par grâce, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses dont nous sommes incapables par nous-mêmes. Et en voilà une. Et Jésus dit, si nous voulons avoir la réaction qui le glorifie, si nous voulons avoir la réaction juste, biblique, qui va plaire à Dieu, ben, contre tout ce que nous pourrions penser, contre tout ce que le monde va nous dire et va faire, le chrétien doit faire du bien à ceux qui haïssent, va bénir, va employer des mots pour bénir, va prier, une idée sur laquelle nous allons revenir. Et puis, verset 46, Jésus explique que, bah, dans un sens, c'est logique. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les inconvertis, ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne se sont pas approchés de Dieu, n'agissent-ils pas de même? Ceux qui connaissent pas Dieu agissent de cette façon. Les chrétiens devraient ressembler à eux? Non, les chrétiens doivent ressembler à Jésus-Christ. Verset 47, si vous saluez seulement vos frères, c'est-à-dire ceux qui vous ressemblent, que faites-vous d'extraordinaire? Ben, la réponse sous-entendue, rien. Tout le monde peut faire cela. Tout le monde peut aimer ceux qui sont aimables. Tout le monde peut aimer ceux qui leur font du bien. Il faut quelque chose de surnaturel pour aimer ceux qui nous font du mal. Il faut quelque chose de surnaturel pour bénir alors qu'on nous maudit. Et Jésus ici explique que cela ne vient pas de nous. C'est Dieu. Et verset 45, il montre que si nous agissons de cette sorte, nous manifestons que nous sommes fils de Dieu. Nous avons accepté son salut, nous nous confions en lui. Puis verset 46, Jésus, à travers ces quelques mots, nous explique quelque chose qui devrait être une grande source d'encouragement pour nous. Parce que comment pouvons-nous faire cela? On va dire, mais ce n'est pas juste. Dieu, ils nous font du mal. Ils font toutes ces choses contre nous et nous, on les bénit. Nous, on prie pour eux. Nous, on leur fait du bien. Non, mais c'est injuste. Dieu, c'est pas possible. Et ici, verset 45, Jésus explique que Dieu est souverain sur toute chose. Les maux que subissent les hommes ne passent pas inaperçus de Dieu. Verset 45, ce même Dieu qui agrée notre attitude face aux persécutions, face au mal, ben, ce même Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Rien n'échappe à Dieu, et Dieu reste souverain. Les attaques du vendredi soir à Paris étaient totalement inattendues des hommes. Certains sortaient voir un match de foot, certains sortaient au restaurant, d'autres à un concert. Totalement inattendues, les hommes ne pouvaient pas prévoir cela, mais Dieu savait. Et Dieu permet ces choses, non pas parce qu'il est un Dieu sadique, bien sûr, mais parce que cela entre dans son plan. Cela ne le surprend pas. Nous sommes surpris, nous sommes bouleversés, mais Dieu ne l'est pas. Et oui, il y a l'injustice dans le monde. Il y a des injustes, il y a des méchants, il y a des gens qui veulent faire du mal. Mais Dieu dit, cela ne dépasse pas Dieu. Dieu reste souverain. Et lorsque nous nous confions en lui, nous aurons la capacité de réagir et d'avoir la réponse et l'attitude que Jésus explique dans ces versets. Mais cela ne vient pas naturellement. Notre première réaction, c'est l'étonnement. C'est incroyable. Non, je n'arrive pas à penser, je n'arrive pas à croire. La colère, les représailles qu'on voudrait mettre en place. Mais Jésus dit, non. Si on veut montrer qu'on est enfant de Dieu, voici comment il faut agir. Pas comme le monde, pas comme naturellement il nous semble, mais comme Dieu voudrait qu'on agisse. Et comme Dieu seul peut nous permettre d'agir. En reconnaissant sa souveraineté, nous pouvons être en paix. En mettant l'accent sur la souveraineté de Dieu, que rien ne lui échappe, et que même si nous ne comprenons pas des choses, je peux vous dire honnêtement, je ne comprends pas dans l'absolu pourquoi Dieu permettrait de tels actes d'horreur, que ce soit à Paris, que ce soit à Beyrouth, que ce soit partout où ça se passe sur la terre. Mais Dieu le fait. Et je peux me reposer dans la pensée que Dieu reste souverain. Il ne se trompe pas, et il ne permet rien qui soit en dehors de sa volonté. Et ici, Jésus dit, on a entendu une chose, mais voici comment il faut agir. Alors, à ce moment-là, quelqu'un peut dire, oui, mais ça c'est Jésus, les évangiles, il parlait aux juifs, ça c'est pour une époque spécifique. Oui, c'est vrai. Il demeure que c'est ce que Jésus a dit, il faut le faire. Mais allez avec moi dans un autre passage. Un des passages les plus étonnants, je suis convaincu, de toute la Bible. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. À la fin de ce passage, nous avons la fin d'un récit. C'est la deuxième fois que les apôtres sont emmenés devant les autorités juives. Ils sont questionnés pour leur annonce de l'évangile. Ils avaient déjà été emmenés, relâchés. Maintenant, une deuxième fois, ils sont emprisonnés même. Et ils doivent répondre devant les autorités. Ils donnent leur réponse. Les autorités sont prêtes à les mettre à mort pour ce qu'ils font. Mais un homme, Gamaliel, se lève, il explique que si ceci vient de Dieu, les autorités ne peuvent rien. Et puis, verset 40, toutes les autorités qui étaient présentes dans le Sanhédrin, ils se rangèrent à son avis, à l'avis de cet homme, Gamaliel, qui avait expliqué que si ça vient de Dieu, rien qu'on puisse faire. Ils appellent les apôtres, ils les firent battre de verge, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Et si nous connaissons l'histoire, nous connaissons la suite, mais si on n'avait que ça, les apôtres arrêtés injustement pour avoir fait le bien, pour avoir annoncé l'évangile, ils se font arrêter. Il y a de faux témoins qui les accusent à tort et à travers de choses totalement injustes. Là, ils sont battus, donc c'est pas simplement les mots, mais là, on leur fait du mal. Ils les battent, ils leur disent, il ne faut plus jamais parler au nom de Jésus, là, ils les relâchent. quelle serait votre réaction? Je me pose la question, quelle serait ma réaction? Sombrerais-je dans la déprime? Est-ce que je dirais, moi, bah, Seigneur, tu as promis de bénir ta parole, je travaille pour toi, je fais tout ce que tu veux, je fais le bien. Je suis cette voie que tu as indiquée. Je t'obéis et là, je suis puni, je suis attaqué, je suis persécuté. Je comprends pas. Là, je vous avoue, ce serait ma réaction. Mais la réaction des apôtres, comme j'ai dit, un des passages les plus étonnants, si ce n'est le passage le plus étonnant dans toute la Bible, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, donc ces autorités juives, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de ce qui se passe ici. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Serais-je ma réaction? J'aimerais croire, mais je ne suis pas certain. Ici, les apôtres, face justement à la persécution que Jésus avait annoncée, bah, ils mettent en pratique cette parole. Ici, au lieu de vouloir se venger, au lieu de se remonter contre les autorités juives en disant, mais qu'est-ce qu'eux y font? Ils n'ont pas le pouvoir, nous allons faire ce que nous voulons, peu importe. Non, ils sont joyeux, ils se tournent vers Dieu et ils comprennent que Dieu a permis cela et ils en sont contents. C'est, honnêtement, je comprends ces versets et ces mots sur le papier, mais dans un sens, je n'arrive pas à comprendre comment les apôtres, dans cette situation, auraient pu avoir et ont eu cette réaction. Et encore une fois, nous revenons à cet élément que c'est surnaturel. Cela ne venait pas d'eux, mais c'est le Saint-Esprit, souvenons-nous, jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, les remplit, y prêche. Il y a même des miracles par la grâce de Dieu. Et c'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils se laissent diriger par le Saint-Esprit qu'ils arrivent à avoir cette réaction, cette réponse. Puis verset 42, qu'est-ce qu'ils font en plus? Ben, ils ne restent pas enfermés entre eux dans la peur. Non, ça c'était avant la descente du Saint-Esprit, c'était avant la résurrection de Jésus-Christ. Non, même après ces menaces, verset 42, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors que deux versets auparavant, on les a menacés en disant, vous n'enseignerez plus jamais au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sortent et ils témoignent au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient totalement pris, animés par l'Esprit. Ils voyaient que c'était pour Dieu qu'ils travaillaient et que même ces persécutions, même être battus, même qu'on se moquait d'eux, ben, ce n'était rien à côté de la joie qu'ils avaient de partager l'évangile et d'obéir à Dieu. Et dans notre contexte, aujourd'hui, on voit ce qui arrive dans notre pays. On voit même l'injustice dans tout le monde, partout. Et notre première réaction peut être de se remonter contre ce système injuste, se remonter contre le péché qu'il y a dans le monde. Être tellement focalisé par tout ce qui ne va pas, tout ce que nous subissons, que nous passons à côté de ce que Dieu veut faire en nous, c'est-à-dire nous remplir de sa joie pour nous rendre capables de témoigner pour lui. Et sans minimiser la gravité de ce qui est arrivé il y a quelques jours. En même temps, en tant que chrétiens, pouvons-nous dire que Dieu nous ouvre la porte pour témoigner? Pouvons-nous regarder ce qui est arrivé, aussi atroce que ce soit, en disant Seigneur, tu as permis cela pour que les gens viennent à toi. Est-ce que nous avons la réaction et la réponse de ces apôtres ici en Actes? Ou nous continuons Satan a voulu éteindre l'annonce de l'évangile. Et dans quelques instants, nous allons voir comment il a essayé de faire cela. Il voulait que les apôtres, que les premiers chrétiens aient peur, cessent de vivre leur vie devant Dieu, reculent, qu'ils aient la mauvaise réaction, qu'ils se remontent, qu'ils s'en prennent aux autorités, que peut-être ils s'en prennent à Dieu. Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu permets ceci? Dieu, c'est injuste. Dieu, tu restes indifférent à notre souffrance. Satan aurait voulu que les apôtres ici fassent cela, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils se confiaient en Dieu. Parce qu'ils étaient animés par cet esprit, le Saint-Esprit. Cela ne venait pas d'eux. C'était quelque chose de surnaturel, venant de Dieu. Et c'est quelque chose dont tout chrétien peut bénéficier. On va voir dans quelques instants aussi que ce n'était pas simplement pour les apôtres. Mais on voit à verset 42, chaque jour, dans le temple, c'est-à-dire ouvertement, le lieu de rassemblement principal pour les Juifs à Jérusalem, au temple, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils se fortifiaient les uns les autres, ils enseignaient, mais aussi ils annonçaient le salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ était au centre. Bien sûr, dans Matthieu chapitre 5, nous voyons que c'est lui qui fait l'annonce de cette réponse que nous devrions avoir. Mais ici, les apôtres mettent l'accent sur Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, cet évangile de Jésus-Christ. Le salut passe par lui et c'est uniquement grâce à lui que nous pouvons avoir cette réaction. Mais quelqu'un pourrait dire, oui, c'est très bien, c'était Jésus, nous ne sommes pas Jésus. C'était les apôtres, nous ne sommes pas apôtres. Eux, ils avaient une mission particulière, c'était vraiment quelque chose de spécial pour eux. Nous, simples chrétiens du 21e siècle, c'est différent, comprenez, un autre contexte, d'autres circonstances. Certes, mais ce n'est pas sans espoir. Allez avec moi dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous mettons beaucoup l'accent sur les quelques premiers versets de ce chapitre. Ce n'est pas cela qui va nous intéresser ce matin. Romains chapitre 12, encore un passage extrêmement étonnant, bouleversant même pour nous. À partir de verset 9, ce passage sera un peu plus long. Romains chapitre 12, à partir de verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. On va dire, pas de problème. Très bien, ça, facile, on peut le faire. Verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ok, très bien. Nos frères et sœurs, bien que par moment on a des différends, bien que par moment il y a des tensions, ok, pas de problème. Verset 11, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oui, gloire à Dieu. Verset 12, réjouissez-vous en espérance. Amen. Soyez patients dans l'affliction. Quoi? Patients dans l'affliction? Non, mais Seigneur, l'affliction, la persécution, tout ce qui va pas, je veux que ça s'arrête. Patient? Je dois attendre? Oui. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, cet élément qui revient. Verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Verset 14, ce que nous avons déjà vu, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Pourquoi est-ce que Paul le répète ici? Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Ok, très bien, mais il le répète, bénissez et ne maudissez pas. C'est parce que les chrétiens de Rome, apparemment, auraient pu tomber dans le travers de maudire, de dire du mal contre ceux qui les persécutaient. Les chrétiens de Rome, apparemment, subissaient une persécution. Et ici, Paul dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est facile. Pleurez avec ceux qui pleurent. Un peu plus difficile, mais on arrive à le faire. Verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Et verset 17, jusqu'à la fin du chapitre, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. » Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et ici, Paul explique aux chrétiens de Rome la même chose que les apôtres avaient compris en Actes chapitre 5. La même chose que Jésus avait expliqué dans Matthieu chapitre 5, que en tant que chrétien, notre devoir est, dans un sens, la seule réponse biblique que nous devrions avoir, c'est de faire le bien. Même envers ceux qui nous font du mal. Et au verset 17, il est très significatif que Paul dit « Ne rendez le mal à personne. » Il ne fait aucune exception. Et on va dire oui, mais Paul, il n'aurait jamais pu imaginer l'État islamique. Non, mais là, c'est pas possible. Peut-être Paul n'aurait jamais pu imaginer cela, mais croyez-vous que Dieu n'aurait jamais pu imaginer cela? Dieu ne voit-il pas l'avenir? Et Dieu, s'il avait voulu, il aurait pu diriger Paul à écrire « Ne rendez à personne le mal, si ce n'est... » Et là, vous mettez le groupe que vous voulez. La personne, peut-être, que vous voulez. Mais il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Le chrétien n'a aucune excuse de rendre le mal, de se venger lui-même. Verset 21, il revient à cette même idée. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par plus de mal? Non, par le bien. Et parce que nous avons si peu d'exemples de cela autour de nous, parce que le monde s'y prend tellement différemment, nous avons du mal à croire que c'est efficace. Nous avons du mal à croire que ça marche vraiment. Nous avons du mal à croire que ça pourrait faire quoi que ce soit. Non, mais c'est pas possible. Eux, ils font le mal, et nous, on est censé faire le bien, mais ça ne marchera jamais. Et pourtant, c'est ce que dit la Bible. Et qu'est-ce que moi, je suis censé croire? Mon raisonnement humain, ou ce que dit la Bible? Et lorsque les apôtres, lorsque Paul disent que même envers ceux qui font le mal, même ceux qui vont jusqu'à l'extrême, il faut faire le bien, en tant que chrétien, ma réponse doit être « Oui Seigneur, j'obéis. » Je ne comprends pas, j'en suis incapable moi-même, mais j'obéis. Et qu'est-ce que cela sera concrètement? Nous avons déjà vu un aspect, c'est prier. C'est prier. Paul le dit, les apôtres le disent, Jésus le dit, il faut prier. Pierre va dire que, avant tout, il faut prier pour tous les hommes, il faut prier pour les autorités. Et le chrétien, face à n'importe quelle circonstance, mais surtout face à quelconque attaque, persécution, circonstance difficile dans sa vie, doit se tourner vers Dieu dans la prière. Et nous le savons intellectuellement, mais est-ce que nous le faisons vraiment? Chez nous, dans les réunions de prière, le mardi soir, nous avons notre réunion de prière. En général, on est un petit groupe. C'est vrai qu'en semaine, on a nos obligations, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais est-ce que nous mettons de l'importance à la prière? Si je m'en tiens à l'assistance le mardi soir, je me pose la question. Ici, dans ces trois passages, nous voyons qu'il faut prier. Il est facile de prier pour les gens que nous croyons méritent la prière. Les gens que nous croyons qui ne méritent pas la prière, c'est plus difficile. Mais en tant que chrétien, je dois prier, oui, pour les autorités, oui, pour mes frères et sœurs en Christ, oui, pour ceux qui me font du bien, mais j'ai l'obligation devant Dieu de prier même pour ceux qui veulent me faire du mal, pour ceux qui me font du mal. Et je dois prier envers Dieu pour qu'il me donne, par le Saint-Esprit, la capacité de bien agir. Comme nous avons vu dans Matthieu chapitre 5, dans Actes chapitre 5, et ici ce que Paul dit aux Romains, cette réaction, cette réponse ne vient pas de nous. Nous en sommes totalement incapables par nous-mêmes. Dans ce passage en Matthieu 5, nous n'avons pas lu les versets précédents, mais Jésus parle de si quelqu'un vous frappe sur le joue droit, ben, présente-lui l'autre joue. Vous imaginez, le monde va dire, mais c'est insensé. Il te frappe, ben tu lui frappes aussi. Comme le monde va dire, œil pour œil, dent pour dent. C'est logique. Il m'a fait quelque chose, je lui fais quelque chose. Et Jésus dit, non. Non. On nous fait du mal. Et c'est sans minimiser le mal qu'on nous fait. Dieu est entièrement conscient du mal que nous subissons. Mais il nous dit, par ma grâce, je peux te rendre capable de surmonter cela et de faire le bien, de prier même pour ces personnes qui font du mal. Et il faut prier envers Dieu, peut-être déjà pour nous-mêmes, pour lui demander sa grâce, reconnaître notre incapacité en disant, Dieu, je vois la vérité de ta parole, mais cela est tellement dur, je n'y arrive pas. Aide-moi, j'ai besoin de ta grâce. Mais en plus de la prière, en tant que chrétien, quelque chose qui nous distingue du monde, c'est l'accent que nous mettons sur la souveraineté de Dieu. Le monde va voir le hasard, le monde va voir le chaos, le monde va voir l'incertitude, le monde va dire on ne peut rien prévoir. Avec toutes les mesures de sécurité, même là on n'est pas vraiment en sécurité, il y a toujours quelque chose qui pourrait se passer. Le monde est dans l'incertitude totale, mais le chrétien qui s'attache à Dieu, qui comprend les Écritures et qui veut avoir une réponse biblique, va mettre l'accent sur la souveraineté de Dieu. Ne sera pas déstabilisé parce qu'il sait que toute chose Dieu permet. Et quelques chapitres plus tôt, dans ce livre, Romains chapitre 8, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Ce toute chose comprend les attentats d'il y a quelques jours. Comment? Je peux vous dire en toute honnêteté, je ne sais pas. Mais la Bible le dit, alors je le crois. Et lorsque je mets l'accent sur la souveraineté de Dieu, je bénéficie de sa paix. Parce qu'il est le Tout-Puissant. N'importe quel gouvernement, n'importe quel groupe, n'importe quelle idéologie, peut vaincre Dieu, peut déstabiliser le plan de Dieu. Et lorsque je me souviens de cela, à ce moment-là, je peux être en paix. Et je serai capable de faire le bien comme Dieu me le demande de le faire si je suis chrétien. Et puis, en tant que chrétien, je dois continuer d'évangéliser. Satan voudrait utiliser le chaos et l'incertitude dans ce monde pour freiner et arrêter les chrétiens. Il a essayé avec les apôtres, Actes chapitre 5, et quelques chapitres plus loin, Actes chapitre 8, nous n'avons pas lu ces versets. Mais qu'est-ce que les chrétiens font face à cette persécution? Ben, ils continuent de témoigner. Et même face aux menaces et aux meurtres de Saul de Tarse, qui allait devenir Paul, celui dont on lit la lettre ici, ils vont continuer d'évangéliser. Actes chapitre 8, si vous voulez noter ce passage, verset 4, les chrétiens sont dispersés mais continuent de témoigner. Et si nous allons dans le chapitre suivant ici, Romains chapitre 13, Romains chapitre 13, toujours dans un contexte d'évangélisation, à partir de verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et le verset 11, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Souvenons-nous, ce livre a été écrit il y a presque 2000 ans. Et les mêmes paroles que Paul écrit aux Romains, c'est comme si elles sont adressées à nous aujourd'hui. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ben, » 21e siècle, avec ce qui vient de se passer, avec toute l'incertitude dans notre monde, c'est extrêmement à propos. Dieu le savait, il nous donne ces versets en ce moment. Dans la suite du verset 11, « C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et Paul dit, nous avons cru. Si nous avons cru au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, si nous avons accepté ce salut pour nous-mêmes, gloire à Dieu. Mais le retour de Jésus-Christ est plus proche aujourd'hui que ce moment-là. Que ce soit il y a quelques semaines, quelques jours, quelques années, le retour de Jésus-Christ est plus proche que lorsque nous avons accepté le salut par la foi. Et pour cela, il faut continuer de témoigner. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Il y a encore de l'espérance pour les gens qui meurent sans Dieu. Plus de 120 personnes sont mortes vendredi soir, sont passées dans l'éternité. Combien connaissaient le Seigneur comme leur sauveur personnel? Dieu seul le sait. Mais je suppose, je pense que la plupart ne le connaissaient pas. Pour ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, il y a encore de l'espérance. Et à qui la mission d'évangéliser a-t-elle été confiée? Aux chrétiens. À ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et bien sûr, il y a des obstacles. Il y a des choses que Satan met sur notre route pour nous freiner. Satan voudrait nous faire peur. Satan voudrait nous déstabiliser. Satan voudrait qu'on reste entre nous. Satan voudrait arrêter notre témoignage pour Dieu et pour l'Évangile. Et dans certains coins du monde, Satan réussit. Et Satan voudrait freiner l'annonce de l'Évangile ici en France et, je dirais, notamment ici, à Vernon, dans cette région. Satan voudrait nous faire peur. Et en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous allons faire face à cela? Allons-nous nous laisser arrêter par ces événements? Allons-nous nous taire? Allons-nous édulcorer peut-être notre message? Ou au contraire, comme Paul, comme les chrétiens de Rome, comme les apôtres, allons-nous redoubler d'efforts pour annoncer cet évangile? Quelqu'un dira, oui, mais cela coûtera. Là, il y a des risques. Là, il y aura des sacrifices. Là, ça peut faire mal. Oui, mais ça vaut la peine. Les gens meurent tous les jours sans Jésus-Christ, sans l'avoir accepté comme leur sauveur. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'annoncer cette bonne nouvelle. Face à un monde totalement déstabilisé, face à un monde dans la peur, face à un monde en colère, qui ne sait pas où il va, nous, en tant que chrétiens, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous avons la possibilité aujourd'hui d'annoncer un message d'espérance, un message de paix, un message qui fait du bien, un message de réconciliation. La question, c'est qu'est-ce que nous allons faire ? Allons-nous réagir de manière radicale ? Non pas comme le monde l'entend, mais comme Dieu l'entend. Allons-nous réagir comme Dieu nous l'indique dans sa parole ? Allons-nous faire le bien face au mal ? Allons-nous prier pour ceux qui font le mal ? Allons-nous exalter la souveraineté de Dieu ? Allons-nous évangéliser davantage ? C'est une question que moi je dois me poser. Je sais quelle est ma réaction naturelle. Je sais ce qui me vient à l'esprit en premier. Est-ce que je vais me laisser contrôler par cela ? Ou est-ce que je vais prier pour la grâce de Dieu pour qu'il me rende capable de ce dont je suis incapable moi-même ? Cette question se pose à chacun d'entre nous. Nous avons un choix à faire. Aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, les gens vont nous regarder. S'ils savent que nous sommes chrétiens, ils vont nous regarder pour voir comment nous réagissons. Qu'allons-nous montrer ? Vous avez certainement entendu, hier, le président français a annoncé 3 jours de deuil ici en France, suite à ces attentats. La France est dans le deuil face à la mort. Je suis convaincu que les chrétiens devraient être dans le deuil parce que les âmes vont dans l'éternité sans connaître Dieu. Ça devrait nous attrister, ça devrait nous pousser à agir comme Dieu voudrait que nous agissions. Chacun là où Dieu l'a placé. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir ? Jésus, les apôtres, Paul nous le montrent. Sommes-nous prêts à accepter cela ? Sommes-nous prêts à accepter ce défi de nous laisser contrôler par Dieu ? Cela va être radical et ce sera vu. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Sommes-nous prêts à lui laisser agir ? J'espère que chacun prendra cette décision ce matin pour la gloire de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous vois chacun. Tu vois l'état de notre cœur. Tu vois ce que tu veux faire en chacun d'entre nous. Tu vois notre incapacité, tu vois le choix devant lequel nous sommes. Et nous implorons ta grâce dans notre vie pour nous rendre capables de faire le bon choix, d'être tes témoins, de réagir comme toi tu voudrais face à ces événements, d'être cette lumière dans les ténèbres, cette espérance au milieu de toute cette incertitude et cette peur, que nous soyons ceux qui apportent la paix, qui fassions le bien là où le monde est en colère, fait le mal. Seigneur, nous nous en remettons à toi, que tu nous fortifies, que tu nous rends capables par ton Saint-Esprit, par ta parole, que nous puissions nous souvenir de ces choses, qu'il y ait un grand impact dans notre vie, que ce soit vu par tous ceux qui nous entourent et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour cela. En ton nom, nous prions. Amen.